Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Tous les soirs de ce mois de Ramadan, nous marchons sur les traces du prophète. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à être fidèles à ce rendez-vous et à nous rejoindre et à suivre l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi encore une fois pour vivre ce mois béni du Ramadan dans la bonne humeur, la convivialité et la fraternité, Inch'Allah, avec toute notre grande famille d'auditeurs et d'auditrices.
Nous avons commencé à évoquer la naissance du prophète. J'aimerais que vous nous parliez de sa mère. Comment s'appelle-t-elle, sa mère, Imam Abdelali ?
Elle s'appelle Amina bint Wahb, de la tribu des Bani Zohra. Donc les Bani Zohra, c'est une branche de Quraysh. Mm-hmm. Hein. Lui-même, du côté de son père, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est lui aussi descendant des Quraysh. Mais il n'est pas des Bani Zohra. Son père s'appelle Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, donc c'est un Hashimite qui est un contemporain de Zohra. Donc Hashim est un cousin de Zohra. Ibn Abd Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murra, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr. Nadr, c'est le surnom de Quraysh. Quraysh, c'est l'ancêtre des Arabes de la Mecque, des habitants de la Mecque. Quraysh est le fils de Kinana. Quand on dit un Kinani, c'est-à-dire un Mécois. Ou un Quraishi, donc le fils de Kinana, c'est-à-dire un Mécois. Kinana ibn Khuzaym ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar. Alors Mudar, c'est justement l'ancêtre qui englobe tous les Arabes qui vivent dans la partie ouest du Hijaz. Et le cousin, c'est-à-dire le frère de Mudar, c'est Rabi'a, qui lui, sa descendance, occupe toute la partie est, c'est-à-dire la région du golfe du Persique. C'est-à-dire les Bakr, les Tarlib, les Hanifa, les Bani Hanifa, etc. Ce sont les Banu Shayban, etc. sont tous des tribus qui occupent la partie est de l'Arabie et qui sont les cousins des Mudariyin. Donc il y a les Mudariyin et les Rabi'a. Ça, ce sont les Arabes arabisés, tous descendants de Adnan, puisque Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan est l'ancêtre commun de tous les Arabes de la partie nord, qui sont les Arabes arabisés, qui ne sont pas des vrais Arabes. Donc, ils sont descendants d'Ismaël, fils de Ibrahim, qui, comme je le disais tout à l'heure, ou pas tout à l'heure, mais je veux dire hier ou avant-hier, je parlais de cet Assyrien originaire de ce qui va devenir plus tard Babylone, mais qui s'appelle à l'époque l'Assyrie. La Syrie, c'est le royaume qui régnait dans l'actuel Irak, avant Babylone.
Qu'est-ce qu'on sait de la mère du prophète Amina ?
Alors, donc Amina bint Wahb est une notable, bien entendu, pure Quraysh, pure sang Quraysh, de la tribu de Quraysh, et qui va être mariée à cet homme qui s'appelle Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Abdullah est le cadet des enfants, le plus petit des enfants de Abd al-Muttalib, qui est par excellence le grand notable de la Mecque. C'est lui qui détient les clés de la Kaaba, c'est lui qui a la fonction d'accueillir les pèlerins. Toute la partie spirituelle et on va dire du sanctuaire de la Mecque, c'est lui qui en a le pouvoir. C'est lui-même qui est propriétaire de ce puits de Zamzam et qui, avec lequel, il va donner à boire et à breuver tous les pèlerins qui rendent visite à la Mecque. C'est quand même un pouvoir très important. Les Omeyyades, par exemple, qui est une autre tribu de Quraysh, a, elle, plutôt la fonction politique et diplomatique des Arabes avec les autres pays qui l'entourent. Il y a à la Mecque énormément de tribus. Les Banu Sahm, les Banu Makhzoum, les Banu Adi, la tribu de Omar al-Khattab, les Banu Taym, la tribu de Abu Bakr Saddiq, les Omeyyades, la tribu de Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, sa tribu, c'est les Banu Hashim, celle du prophète Mohammed, etc., etc., les Banu Asad, et j'en passe, c'est des meilleurs, les tribus de la Mecque, qui sont tous des branches de la grande tribu des Quraysh. Donc, Abdullah va se marier avec Amina, et il va concevoir l'enfant, c'est-à-dire le prophète, au début du mois de Rajab, le mois sacré de Rajab, le septième mois. Neuf mois plus tard, le prophète va naître durant le mois de Rabi al-Awwal, c'est-à-dire le neuvième mois de grossesse de sa mère, Amina bint Wahb. Mais avant, quelques mois avant, eh bien, Abdullah est envoyé par son père, Abdul Muttalib, à Médine pour aller chercher et commercer des dattes, pour apporter des dattes, pour donner des ravitaillements en dattes pour les habitants de la Mecque. Donc Abdul Muttalib envoie son fils Abdullah, et là-bas Abdullah tombe malade. Les oncles paternels, les oncles maternels de Abdullah, c'est-à-dire l'épouse de Abdul Muttalib, qui est une médinoise qu'on a, de la tribu des Bani Najjar, accueillent leur neveu Abdullah et prennent soin de lui et le soignent, essayent de le soigner du moins, mais malheureusement Dieu va décider autrement et il va mourir à Médine. Donc dans la tribu des Bani Najjar, je parle de Abdullah. Donc avant la naissance du prophète, le prophète est déjà orphelin de son père. Et donc c'est dans ce contexte là qu'Amina va donner naissance à son fils dans sa maison, la maison de son mari Abdullah, qui se trouvait à peu près à environ 300-400 mètres l'est du Marwa, du Safa et du Marwa, vous savez, à Malamec, à l'est de la Kaaba, vous avez le fameux parcours entre Safa et Marwa. Quand vous sortez du Safa du Marwa et vous vous dirigez vers l'est, vers la montagne qui entoure la Kaaba, eh bien, en bas de cette montagne, vous aviez une maison dans laquelle habitait Amina bint Wahb, et c'est là qu'elle va accoucher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sage-femme s'appelle Shifa bint Auf, qui va tenir pour la première fois le prophète dans ses bras et va donner naissance à cet enfant béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, eh bien, prophète est bien accueilli.
Oui, alors comment on fait pour déterminer la date précise de sa naissance, Imam Abdelali?
Ce sont les historiens qui ont donc, après les témoignages qui ont été donnés par les contemporains, qui ont transmis, par exemple, la famille des Aouf, puisque Ashifa bint Aouf était la sage-femme, va transmettre elle aussi des informations et va révéler que c'était le 13e jour ou le 12e jour de Shahr Rabi al-Awwal, du troisième mois du calendrier musulman, du calendrier égyrien ou du calendrier lunaire, qu'on appelle le mois de Rabi al-Awwal, le troisième mois Rabi al-Awwal, le 12 de ce mois-là, que Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prophète, va naître et bien entendu va être choyé dans cette tribu des Bani Hashim, puisque c'est la tribu des Bani Hashim que le grand-père Abdul Muttalib, bien entendu, est le garant, le protecteur, malgré la mort de son père Abdullah.
Donc, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé lors de la naissance du prophète, Imam Abdelali?
Alors, beaucoup de choses ont eu lieu lors de cette... on parle de miracles, notamment, on parle que le palais de l'empereur perse a tremblé, que les statues dans différents endroits dans le monde vont s'effondrer sur eux-mêmes, que le ciel va s'illuminer, les étoiles vont briller de merveilles, plein de choses vont se produire dès la naissance du prophète, et cela va bien entendu inquiéter les Byzantins, les Perses, tous ces idolâtres, ce qu'on appelle les païens. Ce sont des païens qui adorent des idoles, et pour les Perses ce sont des adorateurs du soleil et du feu, commencent à s'inquiéter de l'avenir de leur croyance et de leur conviction, parce qu'ils pensent qu'il y a justement cet événement miraculeux qui met en danger leurs convictions et leurs croyances, qui est notamment l'avènement, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ils pensaient qu'il y avait un prophète qui était né.
Aussi par les écritures. La Bible révélait l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque le Coran lui-même lui dit « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ » et annonciateur d'un prophète qui viendra après moi, Jésus-Christ qui dit ça, et qui s'appelle Ahmed. Ahmed, c'est-à-dire Mohammed, l'un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces livres-là, tous ces livres célestes révélés au prophète avant, annoncent l'avènement du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui.
Alors, on connaît certaines des nourrices du prophète, mais qui a été la première à l'allaiter ?
Alors, c'est une servante qui appartenait à Abu Lahab. On dit, comme j'ai évoqué, Abu Lahab étant l'un des pires ennemis du prophète, qui deviendra l'un des pires ennemis du prophète. Au début, à sa naissance, il n'est pas l'ennemi du prophète, il est l'oncle paternel, le frère de Abdullah. Il se sent concerné par son neveu et très heureux de cette annonce de la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mm. Et donc, quand Thuwayba, sa servante, vient lui annoncer que Amina a donné naissance à Mohammed, il est tellement heureux qu'il va la franchir. Qui voulait dire, je suis tellement content que tu viens m'annoncer cette nouvelle. Eh bien, ya Thuwayba, je te déclare affranchi, tu es libre, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu n'es plus sous ma, je suis plus ton maître, je ne suis plus ton propriétaire. Tu n'es plus mon esclave. Je te libère, je t'affranchis. Mmh. Voilà ce que va faire le prophète. Et elle, en récompense, comme elle allaitait déjà un enfant, elle va donner son sein au prophète, puisque Amina, elle ne va pas pouvoir allaiter son enfant, c'est son premier bébé, eh bien, n'a pas le lait nécessaire pour nourrir. Et c'est donc Thuwayba, non pas Halima Sadir, qui va donner du lait à boire au prophète Mohammed. Elle donnait déjà du lait à son oncle, le cadet des enfants, l'un des plus petits, juste qui s'appelait Hamza ibn Abdel Muttalib. Elle avait donné déjà du lait à Hamza auparavant, donc l'oncle du prophète Hamza ibn Abdel Muttalib est aussi son frère de lait. Son frère de lait, et à deux reprises, c'est-à-dire à la fois de Thuwayba, et plus tard, quand Halima Saadia, la fameuse grande tribu immense, les Qays Aylan, dont sont issus et dont la branche des Bani Saad, eh bien, vont récupérer les enfants, mais quoi ? Puisqu'il y a une relation de fraternité et de, on va dire, d'alliance par le mariage entre les Qays et les Kinana. Je t'avais dit les Kinana qui sont les habitants de la Mecque. Les Qays qui sont les rois d'Arabie. Donc les Saad sont issus de ces rois d'Arabie, du centre de l'Arabie, qui sont de l'autre côté de la montagne des Sarawat, de la chaîne de montagne des Sarawat, eh bien, vont venir à la Mecque pour louer leur service et devenir les nourrices de ces bébés-là. Donc pendant 3 mois ou 4 mois, le prophète est allaité par Thuwayba, donc là, cette fameuse servante qui était la propriété de Abu Lahab. Mmh. Ensuite, les Mourdi'at viennent récupérer les enfants. Donc notamment, chaque Mourdi'a, c'est-à-dire chaque nourrice, récupère un bébé Mekwa, et le seul qui restait à la fin, c'est cet orphelin que Halima va refuser. Non pas de prendre, mais de repartir bredouille, et va se dire vaut mieux celui-là que rien. Donc elle repart avec cet enfant en pensant qu'elle ne sera peut-être pas récompensée, qu'elle n'aura pas son dû, mais Abdul Muttalib est quand même son grand-père, qui est un homme très riche et un notable de la Mecque.
Vous réécouterez cette histoire en podcast sur beurrefm.net, et si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, allô l'imam, c'est dans un instant, vous composez le 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
Ramadan Enko reviens dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM.
Ramadan & Co, c'est votre rendez-vous quotidien, 30 jours sur Beur FM. Pendant tous les soirs de ce mois de Ramadan, nous vous donnons rendez-vous. Bienvenue à tous, bon Ramadan, bonsoir Imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bien, 18h56 ce soir.
Ah, machallah, très bien. Donc,
j'espère que vous êtes en voix. Hier, ça grattait un petit peu hier. Hein.
Ça grattait.
Votre voix, ça grattait un
petit
peu.
Ah oui, un petit peu.
Ouais, ça grattait. Hein.
Ça grattait un petit chouïa. Mais parce qu'il faut quelques jours pour un certain rodage, tu vois.
Ah, c'est ça.
C'est comme un moteur neuf, tu vois. Il faut du temps pour.
Parce que vous êtes un peu diesel.
Avant de le pousser.
Un peu diesel.
Tu pousses trop fort.
C'est pour ça.
Il faut un peu de temps.
Bien. The Voice of the Ramadan est avec
Inch'Allah,
nous.
Inch'Allah, Yarab.
Qu'est-ce que vous faites sur votre portable, Imam Abdelali ?
Rien, je révise mes leçons.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, je révise.
Moi, je crois que vous avez tout dans la tête.
Ah ouais, mais il faut qu'on appelle en arabe istihbar, c'est-à-dire le fait de se rappeler tous les choses que l'on va évoquer justement en début de cette émission.
première partie d'émission au 01 53 48 3000. C'est Allo l'imam et vous posez toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Et nous avons Halima qui est avec nous. Halima, bonjour et bienvenue.
Oui, allô. Bonjour.
Oui, wa alaikum salam wa rahmatullah.
Je voulais poser une question à l'imam, s'il vous plaît.
Alors,
j'écoute.
Oui, tous les ans, on a un souci par rapport aux horaires de l'ISEC et du Fajr. La question, c'est à quelle heure on doit réellement arrêter de manger ? Est-ce qu'on se base sur l'ISEC ou là sur le Fajr ?
Sur le Fajr. Le Coran nous dit le Fajr, il ne parle pas d'ISEC. Le Coran ne parle pas d'ISEC. Regardez, écoutez le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Fakulu wa shrabu, mangez et buvez ». حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر jusqu'à que vous puissiez distinguer le trait blanc du trait noir de l'aube.
En effet, d'accord.
Donc l'aube, écoutez, l'aube, j'ai traduit le mot fajr, qui est le terme coranique en arabe. Donc c'est bien le fajr, al-imsak, qui est le fait d'arrêter 10 minutes, un quart d'heure avant le fajr. Est une ce n'est pas, il y a un avis religieux là-dessus, mais qui est faible et minoritaire.
Après, l'imam, ce que je voulais vous demander, c'est que d'un calendrier à un autre, les horaires sont très différents.
Alors voilà, je vais vous expliquer d'où ça vient. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient du fait que aujourd'hui, le critère pour définir le Fajr, vous avez celui de la mosquée de Paris, qui est fondée sur la position du soleil derrière l'horizon à hauteur de 18 degrés.
D'accord.
Alors que l'UIF, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui Musulmans de France, avait établi un calendrier sur la base de la position du soleil à 12 degrés derrière l'horizon avant l'apparition du disque solaire, c'est-à-dire du Shoroq. C'est-à-dire 12 degrés avant le Shoroq, c'est l'UIF, c'est les Musulmans de France. Et 18 degrés, c'est la mosquée de Paris. Donc la mosquée de Paris, c'est plutôt le Fajr est plutôt que celui de la mosquée de que Musulmans de France. Que l'UIF. Ce qui fait, laissez-moi terminer. Ce qui fait que dans n'importe quel endroit en France où on m'écoute, vous allez avoir ce décalage d'environ une demi-heure entre les deux calendriers.
D'accord.
Et donc vous allez me dire, mais je fais quoi moi dans l'histoire ? Eh bien, vous devez tout simplement aller chercher le calendrier de votre mosquée. Du quartier, là où vos enfants font la prière, votre mari, vous-même. Et normalement, la mosquée propose un calendrier de la mosquée, de là où vous êtes. Vous m'appelez d'où, en fait ?
Des Yvelines, 278.
Ouais, mais où les Yvelines, hein ? C'est grand, les Yvelines.
Montesson,
d'accord, ok, enchanté. Ok, très bien. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de mosquée à Montesson, je ne crois pas. La plus proche, ça va être Versailles. Sartrouville. Sartrouville, c'est très bien. Vous allez à la mosquée de Sartrouville, vous prenez le calendrier de la mosquée de Sartrouville, celle qui est à côté de Darty, là, c'est ça ? La grande ?
Oui.
Voilà, très bien, ils ont un calendrier là-bas, certainement. Et vous vous basez sur ce calendrier ?
On se base uniquement sur ce calendrier et pas les calendriers qui sont distribués dans les boucheries, par exemple.
Bah, écoutez, il faut comparer, c'est-à-dire, est-ce que les boucheries se basent sur celui de la mosquée de Paris ou sur celui de Musulmans de France ? Après, c'est à vous de voir, après, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, moi je me rappelle à l'époque dans les années 80, les années 70, même je dirais avant même, pour pas dire que je suis trop vieux, parce que si je dis les années 70
ça fait une cinquantaine d'années.
Eh bien on n'avait qu'un seul calendrier, c'était celui de la grande mosquée de Paris qui était basé sur 15 degrés. C'était pas 18 degrés, c'était 15 degrés. Et c'était Cheikh Hamza Aboubakar, le père de Dalil Boubakar, qui avait mis en place ce calendrier. Et toute la France suivait le même calendrier sur 15 degrés. C'était 15 degrés. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est décalé sur 18 degrés et l'autre sur 12 degrés. Ce qui fait que ça fait une énorme différence entre les deux. On a une différence de une demi-heure, pratiquement 33 minutes parfois, entre les deux calendriers. Donc écoutez, vous suivez la mosquée, ça je vous le dis à vous, mais comme à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent, vous suivez le calendrier de votre mosquée de proximité pour éviter la fitna, parfois même dans le domicile. Mais bon, si un jour, par exemple, quelqu'un dérape et oublie et continue à manger pendant 5 minutes après l'heure de le Fajr parce qu'il a suivi le calendrier de la mosquée de Paris, c'est pas grave parce qu'il pourra se dire bon, il y a quand même encore il y a encore une soupape de sécurité qui est le calendrier celui de Musulmans de France, donc qui est une demi-heure plus tard. Donc si vous débordez de 5-10 minutes, c'est pas grave. D'accord.
Excusez-moi. Mon mari veut vous poser une question.
Allez-y.
S'il vous plaît. C'est qui, par exemple, Lyon, mercredi, on doit s'arrêter à manger à 5h54 le truc de boucher.
Alors ça, c'est musulman de France, 5h54.
Voilà.
Oui, j'ai compris. Le Fajr, c'est selon le calendrier de l'UOIF, de musulmans de France, et non pas celui de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, c'est 5h...
5h30.
Ouais, 5h30. Voilà, 5h30.
Okay. Ouais. Okay, merci.
Merci beaucoup, on va rectifier tout ça. Merci infiniment.
Mais vous, attendez, non, vous ne suivez ni... Vous suivez celui de Sartrouville, puisque vous habitez...
Exactement, on va rectifier.
Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Ouais, assalamu alaikum.
Merci, Alima et son mari, Ousmane Timera, nous a rejoint.
Assalamu alaikum, Ousmane.
Bon, alaikum salam, que la paix soit sur vous.
Ça va?
Vous allez
la
bien?
La circulation, pas trop difficile?
Non, j'étais pris par une conférence et il y avait des choses à faire...
D'accord.
Mais bon, tout va bien. On est vivant et heureux de vous retrouver.
Eh ben, c'est partagé.
On est au quatrième ou troisième jour du Ramadan?
Troisième.
Moi, je compte même plus. Hein, je jeûne.
On a commencé lundi, mardi, mercredi.
Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est mercredi. Vous voyez, genre.
Troisième jour.
J'en perds carrément la notion du temps. Ça va, vous?
Tout le monde va bien? Philippe, il aime pas compter.
Non, faut pas compter. Voilà.
Faut pas compter.
Chaque jour compte, mais on compte pas. On compte pas les jours.
Voilà. Chaque jour.
On est vivant, on est là et heureux d'être avec vous.
Voilà. On saura quand ça sera fini de toute façon.
Oui. Ça va se savoir.
On nous le dira. Alors Hassan est avec nous au 01 53 48 3000. Hassan, bienvenue et bon Ramadan.
Salam
alaykoum. Wa alaykoum salam. Normalement c'est le 9 mars, 9 avril, 9 avril.
Les tarawih nta li li kaydouzou f radio. C'est tarawih bizarre. Alors kifach ma kaydouzouch sujoud? Wach normal ou machi normal?
Alors madame, akhouya el karim, machi andna, c'est pas notre radio qui propose la prière de tarawih. Oui, mais on n'est pas Idaat Sharq, on est Beur FM.
Ah, pardon.
Mais il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, Idaat Sharq, je ne sais pas, est-ce qu'il diffuse le Tarawih de la Saoudia ou la fin? De Mecca? Wallahi, je ne peux pas te dire, je n'ai pas vérifié. Hein? Mais il dit le sujoud?
إيه
كيف ما يدير السجود؟ كما صار
كيقرا الفاتحه كيقرا ايات القران وكيقول الله اكبر وتعاود يقول الله اكبر وكيولي يعاود ثاني يقرا.
اه وي alors c'est possible, alors c'est parce que tout simplement c'est une coupure qui a été provoquée parce que c'est un enregistrement, c'est à dire que c'est pas du direct, machi direct. Simplement, ils ont enlevé toute la partie Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Sami Allah, Alhamd, Gaadik Allahu Akbar. Gal'ouha, bach ykhlou ghir al-qiyam. Laisse que la prière au moment où ce que l'imam il est debout. Il koun waqf yissali bin nas. Bach hadak ga Allahu Akbar, Allahu Akbar, yqla'ha, il enlève pour mais non, mais bien sûr que l'imam, il a fait lui et tout ça. Mais c'est la radio qui a coupé les takbirat ta arkan as-salat li hiya ar-ruku' as-sujud as-sajdatayn.
Ah bon. Ou يمكن اليوم يديروا هذا الشيء ومزيان
هذا الشيء. ماشي انا اش غنقول ماشي في الصلاه داروها في الاذاعه باش تسمع غير القران باش انت المستمع pour que toi l'auditeur tu n'entends que le Coran et ils t'ont épargné les takbirat فقط. Mais je vais pas m'amuser à défendre اذاعه الشرق. اخويا, si tu veux savoir pourquoi ils ont fait ça, tu appelles اذاعه الشرق Radio Orient, ils vont te dire pourquoi ils ont fait ça. Mais non, j'ai une def à la idée autre.
Mais sinon, vous
c'est
écoutez,
pas mon rôle.
Sinon, vous écoutez
Beur FM. Non, mais je crois, j'explique pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'est pour éviter, c'est pour épargner les auditeurs de tous les Allahu Akbar qui se succèdent entre deux rak'at et voilà. Et pour qu'il n'y ait que la récitation du Coran. Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, pourquoi ils font ça, je sais pas.
Bien, on les appellera pour qu'on en ait le cœur net.
Non, c'est à monsieur d'appeler Idaat Sharq. Nous, on fait ce qu'on a à faire.
Alors, Imen est avec nous au 01 53 48 3000. Imen, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Bonsoir, merci.
Bonsoir. Wa alaykoum salam, marhaba
akhi. Salam madame Karim, inchallah.
Allah ybarak fik.
Merci.
J'aurais
deux questions. Mm-hmm. La première, c'est est-ce que je peux lire le Coran si je suis indisposée?
Mm-hmm.
Et la deuxième, ah oui, c'est la différence entre le Hajj et le Ramadan. Est-ce que ça vaut le coup de faire le Ramallah même si ce n'est pas obligatoire, ou est-ce qu'il vaut mieux économiser jusqu'à pouvoir faire le Hajj?
Alors d'abord, on va répondre à la première question qui était, rappelez-moi.
Est-ce qu'on peut lire le Coran?
Ah oui, quand on est indisposé. La réponse est oui, on peut lire le Coran quand on est indisposé. Mais ce qui est en principe prohibé, c'est mass al-mushaf, c'est-à-dire le fait de toucher le Coran, puisque le Coran va nous dire, par exemple, dans un verset, la yamussuhu illa al-mutahharun fiki innahu la Qur'anun karim fi kitab al-maknun la yamussuhu illa al-mutahharun. Donc, il ne peut être touché qu'un, par une personne qui ne sont pas en état d'impureté majeure ou d'indisposition majeur, c'est-à-dire en état de janaba. Pour un homme, ça peut être aussi la même chose. Un homme qui a une relation intime, par exemple, et qui est en état d'impureté majeure, eh bien, lui aussi n'a pas le droit, en principe, de toucher un Coran, puisqu'il est, il est en état de hadath al-akbar, ce qu'on appelle l'impureté majeure, qui exige des grandes ablutions. Mais une femme indisposée, étant donné que ce sont des règles perpétuelles, elle ne peut pas se purifier au milieu de ces règles pour toucher le Coran. Parce qu'elle reste en état d'indisposition majeure, ce qu'on appelle fi halat al-hadath al-akbar, tawala muddat al-hayd ou nifas, tout au long de sa période de menstrue ou de lochi. Donc à partir de là, elle ne peut pas toucher pendant cette période-là un Coran, sauf si c'est pour le déplacer d'un endroit où l'autre. Par exemple, il est sur la table, vous le mettez dans l'armoire, un truc comme ça passe. Mais le prendre, l'ouvrir, le feuilleter, etc., vous devez utiliser un ha'il. Mais idéalement, vous prenez, je sais pas moi, une baguette ou des gants, etc. Et à ce moment-là, vous faites...
Avec des gants, c'est bon.
Oui.
Ok.
Alors deuxième question.
Alors la Omra, c'est l'équivalent des prières surérogatoires, alors que le Hajj, c'est l'équivalent des prières obligatoires, tout simplement. Le Hajj est un rituel qui est très long, qui dure plusieurs jours. Yom Tarwiya, Arafat, Muzdalifa, le premier jour de l'Eid, ensuite avec les Jamarat, ensuite le lendemain on appellera ça Yom Al-Qar, Yom Al-Hadi Ashar, Yom Al-Tashriq, Yom Al-Thani Ashar, Yom Al-Thalith Ashar, Kula Yom Al-Tashriq, qu'on appelle aussi Yom Al-Far. Tous ces jours-là constituent, et puis en plus Tawaf Al-Khudum, Tawaf Al-Ifada, Tawaf Al-Sa'i Al-Hajj, Al-Sa'i Al-Umra, donc et Tawaf Al-Wada' aussi, sont des rites. L'ensemble du rituel du Hajj, du grand Hajj, Hajj al-Akbar, qu'on appelle le Hajj, qui est obligatoire une fois dans la vie pour le croyant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous, votre problème c'est pas l'argent, mais par exemple c'est le temps, parce que vous avez des enfants en bas âge, qui fait qu'il vous semble impossible pendant au moins 5, 6, peut-être 10 ans, parce que vous êtes une mère au foyer, vous ne pouvez pas laisser vos enfants à n'importe qui, vous n'avez personne à qui les confier, donc il vous sera pratiquement impossible avant 10 ans de laisser vos enfants derrière vous et de partir à la Mecque en les laissant voués à leur sort à la maison. Donc ça dépendra des empêchements, parce qu'il y a trois conditions pour faire le Hajj. Il y a la condition physique, il y a la condition financière et bien entendu la disponibilité. Et ça peut être votre travail aussi. Vous n'avez pas de congé. Ça peut être, comme je vous dis, une mère.
La question, est-ce que finalement vaut mieux faire
Alors si on a très peu de temps et pas assez d'argent, on peut commencer par une umra. Vous pouvez vous dire non, moi de toute façon tant que j'ai pas assez d'argent. Le prophète, il a fait 3 ou 4 umras avant le Hajj. La dernière chose qu'il a fait, le prophète, dans sa vie, c'était le Hajj. Hein? Donc il a fait Umratul Qada, il a fait Umratul Hudaybiyah, etc. Il y a eu des Umrat que le prophète a fait avant le Hajj. Donc on peut faire, c'est pas interdit de faire des Umrat avant le Hajj. Voilà.
Merci Imen. Alors s'il vous plaît, vous êtes très nombreux au standard à vouloir poser des questions à l'imam. Donc essayez de poser une question. De toute façon, l'imam est là pendant 30 jours, donc vous pourrez revenir. 01 53 48 3000. Allô l'imam, c'est jusqu'à 18h sur Beur FM.
Ramadan Enko revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enko avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM.
Et je vous rappelle qu'à 18h, vous retrouverez Kamel Chekat pour sa chronique « Les contradictions supposées du Coran ». Vous êtes au standard au 01 53 48 3000. Allô l'imam, Najwa est avec nous. Bonjour et bienvenue Najwa. Bon Ramadan.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Je suis le frère de Najwa. Est-ce que c'est haram d'avoir un animal chez soi?
Un animal? Mais quel type d'animaux? Il y en a beaucoup.
Un serpent, un requin?
Un chien.
Un dragon?
Un chien. Un chien?
Oui.
Bon, non, il n'y a pas de problème. Un chien, bon,
ça maintenant... Ça dépend quel genre de chien.
C'est quoi comme chien?
Un petit chien.
Si c'est un Yorkshire,
c'est pas très conseillé dans notre religion, effectivement. Mais il y a des chiens qui ont une fonction, qui ont un rôle important, comme les chiens d'aveugle, les chiens de berger, les chiens de chasse. Il y a beaucoup de chiens qui ont une mission, qui sont utiles. Ceux-là, c'est autorisé à 100%. Pour les autres chiens qu'on appelle les chiens de compagnie, là-dessus, c'est déconseillé. C'est déconseillé. On peut pas dire que c'est haram. On va dire que c'est déconseillé, et surtout parce que ça empêche les anges d'entrer à la maison et de l'endroit où est-ce qu'ils sont, parce qu'il y a des hadiths authentiques dans ce sens-là, et aussi parce qu'il y a des hadiths qui sont plus durs là-dessus, plus sur ce sujet-là, qui fait qu'il y a certains savants qui vont carrément interdire d'avoir des chiens à la maison, des chiens de compagnie. Mais il y en a d'autres qui vont dire que non, c'est seulement déconseillé. Donc
surtout qu'on a les gens de la caverne qui ont leurs chiens dans l'histoire de la caverne.
Bil Wasid. Bil Wasid.
Oui.
Il était dans la niche. Le Coran Karim, il parle au kalbuhum basitun dira'ayhi bil wasid. Al wasid, c'est la niche.
Oui,
il n'était pas dans la maison.
Mais ils avaient un chien.
Et d'abord, c'était une grotte. Ah, mais c'était un chien de garde. C'était pas.
Oh,
mais
ils avaient un chien.
Mais personne n'a dit le contraire. Je dis bien, les chiens qui ont une mission, un rôle, et c'était le cas dans cette situation, c'était pas un chien de compagnie, c'était un chien de garde, c'était un chien qui avait un rôle. Donc oui, il n'y a pas de difficulté. C'est pour ça que je dis que c'est pas haram. C'est-à-dire, on n'a pas commis un péché si on fait ça. Mais c'est, à mon avis, le minimum qu'on peut dire que c'est déconseillé pour les chiens de compagnie. Les petits chiens là, qui servent à rien, là, les chiots, tout ça. Vaut mieux avoir un chat. Un chat, c'est halal à 100%. Ou ma fille, elle a... Qu'est-ce qu'elle a, ma fille, d'ailleurs ? Hamster, ça va. Hamster, c'est petit, c'est mignon, ça va.
Enfin, c'est mignon.
Ou un
c'est mignon.
Ou un cochon d'Inde aussi.
Ouais, c'est pareil.
Ouais, c'est mignon.
Ça va, j'ai répondu à ta question ?
Oui, et comment je peux apprendre la prière ?
Eh bien, tu demandes à papa et à maman, ils sont là, ils savent faire la prière, papa et maman ?
Oui.
Eh bien, tu pries à côté de papa et à côté de maman. Quand c'est l'heure de la prière, tu viens à côté d'eux et tu leur dis de réciter à voix haute. Et si tu peux même, pourquoi pas, t'inscrire dans l'école arabe de la mosquée où vous habitez. Il y a des écoles arabes, des écoles où on enseigne l'éducation religieuse, où vous apprenez à apprendre à faire la prière, etc., dans la mosquée, avec le mu'allima et tout ça. C'est bien. Faut pas juste apprendre que depuis chez papa et maman. C'est bien aussi que les enfants, ils aillent suivre des cours au moins une fois par semaine. C'est bien. 2 heures, 3 heures de cours, c'est bien.
Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, parce que certains pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'Ousmane Timira s'amuse à poser la question du chien? C'est fondé sur une approche méthodologique différente. Ana la aqbalu al-ahad fi maqam al-tashri'. Je n'accepte pas les hadiths qui ne sont pas unanimes, qui sont apportés par un ou deux compagnons selon la chaîne de narration dans le domaine de la législation. Je pense que la législation doit être fondée sur quelque chose d'unanime et de sûr à 100%. Là où il y a d'autres écoles, c'est la majorité parmi les 4 écoles qui acceptent un hadith, même rapporté par un compagnon, ensuite rapporté par un autre de celui-ci, qu'il accepte dans le domaine de la législation. La différence,
sauf qu'on n'est pas avec des étudiants en charia, au bout du fil, au bout de l'antenne.
Il faut aller au plus simple.
Au bout de l'antenne, on est simplement là. Les gens attendent qu'on leur explique les choses sur un plateau.
C'est vrai, c'est vrai.
Qu'on ne parle pas dans les détails des avis religieux.
Mais c'est bien aussi dans le débat qu'on explique un peu sans rentrer dans les détails, bien sûr. Mais cette subtilité qu'il y a dans les différentes écoles, afin qu'ils comprennent que quelquefois des divergences sont fondées en raison de l'approche différente et des sources sur lesquelles les gens s'appuient. Pour pas qu'ils se disent, oh là là, pourquoi cet imam dit ceci alors que j'en ai entendu un autre. C'est des questions de méthodologie, et il est bon qu'aussi le public le comprenne.
Le minimum que l'on a sur cette question-là, concernant le chien de compagnie, c'est le karahia. Hein. Et l'avis le plus dur, c'est que c'est haram, que c'est carrément interdit. Ça, c'est l'avis le plus dur. Mais la plupart, etc. Donc on a certains avis minoritaires qui s'est autorisé, mais ça reste quand même assez minoritaire. Moi, je préfère rester dans mes fatwas, dans mes avis religieux que je donne à nos auditeurs, rester dans la grande majorité de ce qui est dit par les savants, ce qu'on appelle en arabe jumhur al-ulama. Ma yaquluhu jumhur al-ulama. Je peux contredire une minorité qui semblerait plus adaptée au contexte dans lequel on vit, mais je dis qu'il existe d'autres avis Il en existe d'autres. Mais ma position, c'est souvent de dire la position de Ra'il Jamhour. Voilà.
Allez, d'autres appels dans un instant. Allô, l'imam sur Beurre FM à 18h01 jusqu'à 18h. Hein, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Allô, l'imam au 01 53 48 3000. Karim est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Karim. Karim. Ou pas. Alors, à la 1, à la 2, à la 3, on va passer à Rania. Karim. Alors, attendez, Karim.
Allô, allô.
Oui, Karim. Faut pas traîner. Hein. Alors, allez-y.
C'est juste une question un petit peu bête, mais bon. Je voulais savoir les signes de l'adolescence pour pouvoir faire le Ramadan la première fois.
Mais quoi ?
Les signes de l'adolescence.
Oui. C'est les poils qui poussent et tout simplement la puberté. C'est-à-dire quand l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, est en mesure de procréer. Pour la fille, les signes chez la fille, c'est les règles. Et chez les garçons, c'est l'éjaculation.
Pour moi, c'était ça, mais on m'a dit aussi qu'il y a les cheveux.
C'est-à-dire les cheveux, qu'est-ce qu'ils en voient ? Les poils ?
Les poils, oui.
Oui, les poils, pas les cheveux, les poils. Bon, en général, quand on est capable de procréer, on a quand même un peu de poils qu'on peut commencer à pousser. Mais en vrai, ce qui est utilisé par les ulama, c'est عند البنت الحيض, يعني ظهور العادة الشهرية, le fait d'avoir ses menstrues tous les mois. Et chez le garçon, c'est tout simplement la capacité à éjaculer, c'est-à-dire à
faire des enfants.
Faire des enfants. Capacité à faire des enfants. Voilà. Pour rester courtois.
Ouais, c'est bon. Pas de jardinage. Hein. C'est ce que je
pas de jardinage.
Pas de jardinage. Je vous ai dit pas de jardinage ce soir. Merci Karim. Rania est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Rania.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Très bien.
Bonsoir.
Rania.
Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir Ousmane, bonsoir Imam Abdelali Mamoun.
Bonsoir, wa alaykoum salam.
Moi j'avais une question car je suis étudiante en art appliqué.
Ah,
je suis aussi musulmane. Et du coup, je voulais savoir s'il y a des choses, des règles entre l'islam et l'art. Hein, sachant que je sais que par exemple le dessin des portraits, c'est quelque chose qui est plutôt négatif en islam.
Dessin des portraits
Oui, quand on fait des portraits ou quand on dessine le visage. Alors, après, il y a plusieurs écoles, je pense. Hein. Mais pour tout ce qui est relatif à l'art figuratif...
Prendre une photo ou dessiner la photo, c'est quoi la différence ? Là, on a utilisé un moyen technologique. Dans l'autre cas, on a utilisé un pinceau. C'est quoi ? Pourquoi ça serait autorisé et l'autre, non ? Expliquez-moi. Là, on parle pas de statue. On parle de photo, on est d'accord ?
Un dessin en deux dimensions,
voilà. Pas en trois dimensions.
C'est-à-dire fait avec la main d'un être
humain. Je ne vois pas la différence entre un appareil photo, où là personne ne va vous dire que c'est interdit, sauf l'avis très minoritaire, ou des gens un petit peu intégristes, un peu radicaux, rigoristes, qui vont carrément interpréter le hadith qui dit La'anallahu al-musawwirun. Dieu maudit ceux qui font des dessins ou des images, dessinent des images. Alors que Moussaouir, là, il s'agit de sculptures, et non pas de... Et sculptures pour adorer, pour vénérer. Ce sont des idoles, c'est-à-dire qu'on va... Ce sont des gens qui vont fabriquer, par exemple, avec des objets, avec, par exemple, des matériaux comme le granit, je sais pas moi, de la pierre, ou du bois, et ils vont fabriquer... Ou du marbre, voilà. Ils vont fabriquer une statue. Eh bien, ça, en principe, si elle a pour objet d'être un objet de décoration... Eh bien, le Yom al-Qiyama, d'après le hadith, Dieu interpellera cette personne. Il lui dira, donne vie à la chose que tu as créée. Donne la vie. C'est-à-dire, ahyi ma khalaqt. Puisque si tu as créé cette chose-là, donne-lui la vie. Oui. Et en défi. C'est une défiance de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses à éviter tout ce qui est avec une ombre, c'est-à-dire en trois dimensions. Maintenant, s'il s'agit de côté artistique, purement décoratif ou il y a un avis minoritaire qui considère que c'est pas interdit parce que même le prophète Souleyman fabriquait et demandait à ses genoux يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفون كالجياد. نعم. Donc on lui faisait, on lui fabriquait des décorations. Mais c'était un homme convaincu de l'unicité d'Allah. Donc il n'était pas perturbé par une forme d'idolâtrie ou de statut dans lequel on pourrait succomber à l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, étant donné que cette réalité-là n'existe plus, pratiquement plus, on puisse penser que des gens vont fabriquer des statues pour les vénérer, sauf que pendant longtemps c'était le cas, les statues étaient fabriquées pour être vénérées, et c'est pour ça que le prophète l'a interdit. Aujourd'hui non, aujourd'hui les artistes qui fabriquent des statues, ils ne le font pas pour ensuite en faire des idoles quoi. Donc il y en a des savants contemporains qui disent que non, il n'y a pas d'interdiction à ni fabriquer ni même utiliser ces objets comme décoration.
Ousmane,
Rapidement, c'est vrai que la question était plus large sur la question de l'art. Il y a la position majoritaire des savants qui est problématique sur ce sujet par rapport à l'art, le dessin, la musique et tout un tas d'autres choses. Or, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le fait d'accepter des hadiths non notoires dans le domaine de la législation restreint le champ de la liberté. Là où effectivement nous avons un tas d'exemples dans le Coran, où on parle d'un Jésus qui fabrique à partir de l'argile un oiseau, où on a Souleyman alayhi salatu wassalam qui fabrique des statues. De façon générale, l'interdiction de l'art en général, et des statues, est lié à une époque où, effectivement, nous étions proches de l'idolâtrie et il fallait s'en libérer. Aujourd'hui, restreindre le champ des artistes sur ces questions-là pour des choses qui, aujourd'hui, auxquelles personne ne pense aujourd'hui, personne n'adore des poupées ou des statues, je pense qu'il faut que les savants révisent un peu cette question-là et que nous soyons premiers dans l'art de façon générale.
Kamel Chekat nous a rejoint. Bonsoir Kamel, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel. Bienvenue Kamel.
Merci.
Wa alaykoum salam.
Comment ça va?
Alhamdulillah.
On a un souci avec votre ligne de téléphone, Kamel, ce soir.
Comment?
Voilà, on a un petit souci avec votre ligne de téléphone. Voilà.
J'ai pas entendu.
Voilà, on a un petit souci avec votre ligne de téléphone.
La connexion n'est pas top.
Ça me dépasse,
s'il
vous plaît.
Ça?
Ça me dépasse.
Je me lance quand même.
Ah oui, bismillah, vas-y, tfaddal.
D'accord, très bien. Alors, nous allons parler d'un sujet... Qui ne cesse de faire débat dans la communauté musulmane, et même ici en Algérie. Donc, nous allons nous intéresser au vin et à la consommation du vin. Tout le monde sait que la consommation du vin en islam est interdite. Et certains de nos musulmans, hein, il y en a même qui pratiquent la prière, qui vous diront le vin n'est pas interdit, tout simplement parce que déjà, on vous dit le verset 219 de sourate al-Baqara, celui où il est dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité, il t'interroge dans que doit-on dépenser, etc. Donc, dans ce premier verset, il n'y a pas d'interdiction. Nous dirons que ce verset a été révélé parce qu'il y a eu des interrogations de la part des musulmans une fois établis à Médine, et qui avait pris conscience, qui avait atteint une certaine maturité religieuse et qui avait pris conscience de ce qu'était l'éthique ou bien le fait d'être conforme au décret de Dieu, assidu au culte. Et ils ont posé cette question et donc le vin n'était pas encore interdit. Et donc l'interdiction du vin viendra plus tard. C'est au verset 90 de Sourate Al-Maïda qui dit: Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Alors, ce verset pour le mot ijtanibouh, ça a été traduit par certains, évitez-le, et chez beaucoup de gens, évitez. Ne veut pas dire se détourner, ça veut tout simplement dire qu'on doit quelque peu s'abstenir de la chose ou bien passer à côté, éviter, peut, pour certains, veut dire frôler, alors que ça n'est pas le cas. Éviter, dans la langue française et aussi en arabe, ça veut dire se prendre la direction, une direction diamétralement opposée. Et d'ailleurs, le verset 90 qui vient plus tard nous dira « Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah à la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?» Si pour certains, quand Dieu dit « Allez-vous donc y mettre fin ?» n'est pas un signe d'interdiction, mais pourra à ce moment-là absolument rien dire. Et donc là, nous sommes dans l'interdiction. Mais certains vous présenteront le verset 67 de Sourat al-Nahl comme une contradiction à ce que nous venons de dire. Ce verset nous dit « Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. » Donc, une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Certains vont jouer sur ce segment qui dit « Vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent », ce qui signifie que le vin est autorisé, comme ça, de prime abord. Mais ce que beaucoup ignorent ou occultent sciemment, pour certains, c'est que, premièrement, cette sourate, sourate al-Nahl, est une sourate mécoise. Tous ces versets ont été révélés à la Mecque, à l'exception des trois derniers versets révélés à Médine. À la Mecque, c'est beaucoup plus la construction du musulman va se faire sur le plan dogmatique, au niveau de la foi uniquement, et, ou beaucoup plus. C'est à Médine que le canon va se cristalliser et se forger. Donc, cette sourate c'est une sourate mécoise. Et à ce moment-là, au moment même de la révélation donc, de cette sourate, le vin n'était pas interdit. Et la consommation du vin n'a été interdite qu'une fois que le messager de Dieu, alayhi salam, s'est établi à Médine. Donc, et comme le rapportent les exégètes, ce verset a été révélé alors que la consommation du vin n'était pas encore interdite. D'un autre côté, il faut savoir que le mot « sakar » en langue arabe désigne parfois le vin, et aussi une boisson qu'on appelle nabid, qu'on peut traduire par alcool de date ou vin de palmier. Il faut savoir que le mot stakar peut désigner tout simplement une boisson qui peut, à fermentation, se transformer en vin. On peut lire aussi dans le dictionnaire d'Ibn Bandour, le fameux lisan arabe, ce qui suit. Nabid ou tarh. Le mot nabid désigne tout ce qui a été mis de côté ou isolé. Ceci parce que tous les types de nabid que l'on préparait à l'époque de la révélation et même avant devaient rester un certain temps avant d'être consommés. En Algérie, nous avons ce que nous appelons ce même nabid, nous l'appelons l'agni pour ceux qui connaissent. Donc c'est de la sève de palmier qui, quand elle est retirée, ça ne pose aucun problème, c'est une boisson sucrée. Mais au bout de quelques heures, si la boisson n'est pas mise au froid, elle tourne, donc elle va fermenter et produire une boisson qui peut devenir enivrante. Donc même ici, nous sommes face à une boisson qui ne concerne pas le vin au premier degré. Et donc, ce verset ou ce segment de verset de sourate an-Nahl qui dit « Wa min thamarati an-Nahl, des fruits, des palmiers et des vignes, tattakhidouna minhu sakara, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent », la chose ne désigne aucunement le vin, et donc il n'y a pas de contradiction entre les premiers versets cités et ce dernier verset. Voilà donc pour la contradiction supposée d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et puis Saftourkoum à tous.
Saftourkoum, Kamel Shikal sur
Saftourak, Ramadan Moubarak Karim. Shukran al Fawaid. Jazak Allahu khairan. يخليك للأمة الإسلامية ذخرا يا شيخنا الفاضل.
Un petit souci avec le téléphone ce soir. Ousmane Timara, tiens, une sourate bien comprise.
Ah, j'étais peut-être que le cheikh il va nous aider là-dessus. Je me souviens que j'avais le cœur brisé. Et un enseignement que je donne aux gens, ou en tout cas un conseil, pour vous approprier une sourate, essayez de le vivre intensément et de vous l'approprier, surtout dans les moments difficiles. J'étais dans une situation de détresse, mais je dis pas la cause, hein, j'étais assez jeune.
On peut tout dire.
C'était il y a longtemps. Non, mais c'est souvent que ça m'arrive. Hein.
Ah ouais.
Mais en tout cas, à des moments très très difficiles.
C'était pas trop à Guantanamo, non.
Non, alhamdoulilah, ça va.
Ça c'était avant.
C'était avant
que je sois né. L'ancien Osman.
Oui, c'est ça.
Le calife.
Mais... Non, j'étais dans une situation extrêmement difficile, mon cœur se noyait complètement dans une tristesse impossible à tenir, quand j'étais en train de me balader dans les rues du Caire, et ça m'est arrivé une deuxième fois quand j'étais une fois au Céau Bourget, et j'entends cette récitation du Coran qui m'a arrêté sur place, comme si ça m'était révélé, et ça disait « Wadduha » par la clarté du matin, « Wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il n'est pas fâché contre toi. Et j'avais cette impression, on dirait que ça me parlait. Je disais, mais en fait, oui, si je vis cette épreuve, c'est pas parce que Dieu m'aime pas. C'est parce que comme le prophète, alayhi salatu wassalam, on doit accepter les épreuves pour grandir et devenir un grand homme. Il faut accepter cela. Et ce passage-là, à chaque fois que je me le récite, surtout quand je me sens triste et un peu touché par l'adversité, il me plaît de revenir à cette sourate, de la méditer, d'en tirer des leçons, de me rendre compte que la pauvreté, la difficulté qu'avait vécu le prophète et le fait qu'il soit orphelin l'ont aidé à devenir l'homme qu'il fut, c'est-à-dire plein d'écoute, plein de mansuétude. Les difficultés que tu vis, ma chère amie, mon cher ami, sont des leçons que Dieu te donne, comme il fut pour le prophète, alayhi salatu wassalam, pour que tu sois grand. Le jour et la nuit s'alternent, la difficulté et la facilité s'alternent, et il faut de l'eau et du feu pour faire un bon métal, un bon diamant, une pierre précieuse.
Puis il y a aussi le verset qui suit, qui est très, très utile. Non, le verset n'est pas la sourate.
Ah oui.
Dans lequel Dieu dit « Walal akhiratu khayrun laka min al-oula ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, tout ce qui arrive dans ce bas monde, c'est éphémère.
Mm-hmm.
Et que ce qui est éternel, c'est
l'au-delà.
C'est là où est-ce que véritablement la vraie jouissance, le vrai plaisir, le vrai délice du paradis sera ressenti, parce qu'il sera pérenne, qui sera perpétuelle et sans interruption. Alors que tout ce qui peut arriver de bien ou de mal dans ce bas monde n'est que temporaire. Donc totalement...
Ça va passer.
Ça va passer, voilà.
Et donc il n'y a pas à se suicider.
Il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à...
Dieu est plus grand que tes épreuves.
Ou même ressentir de la tristesse. Le Coran est contre... Dieu était contre la tristesse. Le prophète était contre la tristesse. Il demandait toujours à Dieu d'être préservé de la tristesse.
C'est vrai.
Allahumma inni a'udhubika min al-hammi wal-hazan. Wa la tahzan wa la takun fi dayqin mimma yamkurun. Le Coran parle à chaque fois et le prophète ne soit pas triste. Dans maintes reprises, le Coran nous décourage.
En tout cas,
nous met dans des situations où est-ce qu'on va se retrouver dans la tristesse.
On ne doit pas se noyer dans la tristesse. Gardez
et
espoir.
Pas se mettre dans des situations qui pourraient nous attrister. Mmh. Bon, il y a des choses qui nous arrivent malgré nous, comment dire. Mais il ne faut pas provoquer la tristesse. Mmh. Voilà. Contraire, il faut être joyeux.
Sourate,
le musulman est un homme joyeux.
Bien comprise.
Bien, eh bien, pour ne pas être triste, vous allez pouvoir être notre very important auditeur ce soir. Vous le savez, Beurre FM et Mo le patron vous gâte tous les soirs de ce mois de Ramadan.
Il y a de quoi être content là. Voilà. Mo le patron, c'est sûr que là, on est loin d'être triste.
Donc deux choses en plus, vous finissez la journée avec nous quelque peu avant l'Aden, déjà vous êtes au téléphone avec nous, et puis vous pouvez repartir avec une télé connectée de 32 pouces et le fameux robot aspirateur d'une valeur de 200 €.
Ah oui, elle est géniale en plus.
Donc Mo, le patron,
c'est
jamais.
Acheté.
Ouais, je sais.
Sans fil, c'est génial. Tu recharges directement dans le mur, c'est super, magnifique. En plus, il n'y a pas de sac. C'est directement et très efficace. Alors là, il ramasse tout.
Et si on faisait un téléachat?
Belmar, après avoir raconté des histoires.
Alors Imam, l'aspirateur,
il a fait quoi Belmar? Si on reste sur les traces de Belmar.
On va cartonner. On fait un téléachat halal.
Non, franchement, je t'ai dit, je l'ai acheté, il est bien.
Voilà. Bon, c'est désormais quatre adresses, Mo le patron, Oni, Buchelet, Toulouse et Tourcoing. Et vous pourrez...
Tourcoing.
Tourcoing.
Ouais.
Tourcoing. dans le nord. Voilà. Ah, et vous, ça, pourrez, vous pourrez donc.
Et Osny, c'est dans le Val d'Oise, à côté de Pontoise. Osny, Osny, ça s'écrit. O-S-N-Y.
Bien, allez, 01 53 48 3000, ça sera peut-être vous le gagnant tout à l'heure.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
On rêve tous de changer le monde. Rendez-vous tous les soirs avec Ousmane Timéra. Ousmane.
Oui, que la paix soit sur vous. Effectivement, on rêve tous de changer le monde. Comme le disait il y a quelques années un rappeur que j'écoutais. Mais une autre parole bien plus profonde s'ajoute à cela. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant que ils, les membres de ce peuple, ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Il s'agit donc de changer. Il s'agit donc de provoquer ce changement. Et ce changement doit commencer en nous. Et c'est ainsi que Iqra fut révélé. Lis. Cette lecture du monde, cette lecture des signes de Dieu au nom de ton éducateur, de ton maître, de ton enseigneur qui a créé. Il s'agit de faire de l'univers entier dans son immensité le livre que nous lisons, que nous méditons. Et c'est le début de la transformation. Un jour, un jeune homme qui vous parle en ce moment avait proposé dans une mosquée, dans un centre culturel musulman qu'il dirigeait, le rêve suivant. Et si nous faisions en sorte de créer la plus grande bibliothèque de la région dans laquelle nous nous trouvons? Et si, dans la mosquée, et si nous faisions en sorte qu'il y ait des grands écrans qui montrent la danse des galaxies, la beauté des étoiles, le chant au fond des oiseaux, cette danse cosmique que tout danse, que tout le monde doit comprendre et saisir. Et la réponse, malheureusement, fut négative. D'aucuns demandèrent, est-ce que les livres qui seront présents seront au fond des livres de Kuffar? Est-ce qu'il y aura du Victor Hugo? Est-ce qu'il y aura tel type de livre qui est dédié à telle obédience, à telle tendance, à telle misérable façon de réduire la religion? Eh bien, il s'agit de s'élever. Et c'est la raison pour laquelle les premiers passages du Coran tous viennent à chaque fois élever le regard des êtres humains. Comme nous voulons sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons, devons nous élever. Regarder le monde dans lequel nous nous trouvons. Ne pas seulement s'agglutiner sur les débats facétieux dans lesquels nous sommes plongés nuit et jour, sur les images qui viennent en chasser d'autres sur nos portables, sur les polémiques qui ne servent à rien si ce n'est à nous piquer de rage et de sommeil. Il s'agit de s'élever, de regarder le cosmos, de se lever, de regarder la création de Dieu, de comprendre qu'en réalité ce monde a une origine. Nous appelons cela le Big Bang, mais au fond c'est la création de Dieu, celle qui commença par Kun, soi. Et cet ordre se transforma en réalité que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit du kaonosme, du cosmos, de au fond ce qui vient du kun divin et qui organise le monde dans lequel nous nous trouvons. Des athées, quelquefois, nous interpellent, nous chatouillent et veulent créer un monde qui n'a pas d'origine. Cela est éternel, cela est la cause de lui-même. Quelle absurdité! Une absurdité qui finit par se transposer dans nos lois, dans nos règles, un non-sens, le nihilisme, la mort de l'être humain, la mort de la raison, la mort de la science, en réalité la mort de toute règle. Il faut dire Dieu pour que la vie ait un sens. Il faut dire Dieu pour que l'homme ait sa dignité. Il faut dire Dieu pour que le cosmos soit une cohérence, un signe qui nous est envoyé. N'avez-vous pas remarqué de quelle manière est-ce que le Coran parle aussi bien de l'histoire, des arguments, de la création et du Coran sous le vocable de aya, de signe, de merveille, de ce qui doit interpeller. Nous ne disons pas verset, nous, nous disons signe. Le soleil qui danse dans le ciel, un signe. La lune qui nous interpelle de sa beauté, un signe. La naissance de l'enfant qui, tout près, est accueilli comme un roi par la nature, un signe. Le sang qui coule dans tes veines, un signe. L'histoire des peuples passés et futurs, un signe. Tout est signe car Dieu parle à l'être humain et à l'intelligence à travers tous les événements, à travers tous les éléments. Même à toi, même à nous, à nous tous en réalité. Et c'est parce que nous ne voyons plus les signes, c'est parce que nous ne nous, nous élevons plus au-dessus du monde dans lequel nous nous trouvons que nous le pensons indépassable, que nous le pensons impossible à changer. Oui, c'est le fatalisme, mais sans la foi, il n'y a que fatalisme. C'est avec la foi que nous avons l'audace, le courage de dire que autre chose est possible, parce que Dieu éternellement est créateur. Dieu ne se limite pas à ce qu'il a créé. Le monde toujours est transformé parce que Dieu continue de créer, parce que Dieu continue d'intervenir dans la création. Et étant conscients de cela, soyons nous-mêmes les créateurs de notre vie. Changeons le monde, transformons-le. Élevons-nous, regardons le ciel, regardons la terre, regardons la nature, comprenons le chant et la danse du cosmos, ce fourmillement de vie, de créativité qui ne peut qu'interpeller tout cœur sensible. Nos cœurs sont insensibles, nous avons le regard plongé sur nos portables ou sur nos baskets. Ce n'est pas là l'art du leader, ce n'est pas là l'art de la transformation. Dire Dieu, c'est lever la tête vers le ciel, c'est te dire qu'il y a un sens à ce monde, c'est d'être sensible à la beauté. Parce que la philosophie, la sagesse, la religion commencent par l'émerveillement. Qui ne sait voir la beauté est en réalité un cadavre qui marche. Il suffit que nous prions sur toi pour t'enterrer. Mais tu es déjà enterré. Tu es enterré dans l'habitude. Tu es enterré dans la tombe de ton ignorance parce que tu oublies le sens, parce que tu ne t'élèves pas. Élevons-nous. Lisons au nom de notre Seigneur qui a créé.
18h56. L'ADEN en direct, Imam Abdel Ali.
Hein. Oui, très joli ce qu'on vient d'entendre. C'est plein de moralité. Effectivement, c'est le sens de toutes les tout premiers versets révélés au prophète, dans lequel donc, Dieu dit qu'il a créé l'homme d'une adhérence, et donc d'une information, qu'il a transformé l'information en création, c'est-à-dire ce génome qui compose l'être humain, mais que seul Dieu peut transformer en création. Hein, le génome est une information. Mais ensuite, il donne la possibilité, dans sa grande générosité, de transformer la création en information, puisqu'il dit اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Il enseigne à l'homme la création. Donc, et la transforme en information qu'il va pouvoir rédiger et conditionner dans des livres et des ouvrages.
Mashallah. Ramadan Enco, ce sont des moments qu'on partage ensemble pendant 30 jours, pendant tout le mois du Ramadan.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, Ramouvision. Et sa traduction en français.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Inna Allah la yastahyi يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir. Puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux, et il est omniscient.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa » Ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais que vous ne savez pas. »
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن
Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. »
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Ils dirent Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, Ramadan Co. Ramadan revient dans un instant.
Les Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et c'est parti pour le very important auditeur, Imam Abdelali. Si vous voulez repartir avec un cadeau offert par Mo le patron, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Le temps d'un disque, Imam Abdelali, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter ce soir ?
Du Mohamed Tahrir qui nous chante le Ramadan, c'est bien. Il rend hommage au mois du Ramadan et l'importance de profiter de ses mérites. On écoute, c'est magnifique.
Je vais demander à Kim, qui est avec nous sur ce plateau, de donner un numéro entre 1 et 6, Kim.
Eh bien, le 2, parce que je suis né le mois de février.
D'accord.
Bonsoir tout le monde.
Le 2.
Donc c'était ton anniversaire.
Salam alaikum. Oui, le 22-2.
Ah, alors, le 22-2. Qui est sur la ligne numéro 2 ? Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan.
Oui, allô ?
Oui, bonsoir. C'est vous le very important auditeur. Quel est votre prénom ?
C'est Khayreddine.
Khayreddine, c'est ça ?
Khayreddine.
Voilà, Barberousse. Le et vous
bien,
nous appelez d'où ?
Ah oui, le bien de la religion.
Ouais. D'où nous appelez-vous, Khayreddine ?
Donc, j'appelle de Créteil.
Très bien.
Bon. Créteil.
Qui est autour de vous, Khayreddine, ce soir ?
Donc, je passe le bonjour à toutes les musulmans de monde entier et on leur dit que
Et alors, qui y a autour de vous, Khayreddine ?
Donc j'ai ma petite spéciale qui a essayé de vous joindre.
D'accord, on vous entend très mal. Hein. Vous êtes peut-être le haut-parleur ou le kit main libre.
Non.
Bon, alors est-ce que vous êtes plutôt aspirateur ou de télévision 32 pouces?
Je pense que ça sera l'aspirateur parce que l'année dernière, elle a gagné la télé, donc cette année, ça sera l'aspirateur.
Ah oui, elle a déjà gagné l'année dernière. Ah oui, super.
Mais est-ce qu'on a le droit de rejouer d'une année sur l'autre?
D'une année à l'autre, ça va.
D'une année à l'autre, oui.
Par contre, la même année, moi, j'aurais été contre. Mais d'une année à l'autre, ça passe.
Bon,
en plus, comme il avait la télé, maintenant, c'est pas la même chose, donc ça va. C'est complémentaire. Khairuddin, Allah yjib lou
khair.
Allah yjib lou khair. Il s'appelle pas Khairuddin pour rien.
Bon, Khairuddin, est-ce que vous savez ce que vous allez manger ce soir pour Ftour?
Donc, il y a madame, je sais pas, c'est madame qui l'a préparé, je vous la passe.
Ah ben, rapide, non, parce qu'il y a l'ADN là. Hein. Bon.
Allô?
Oui, bonsoir.
Vite fait,
alors, rapidement, qu'est-ce que vous
madame.
Je suis très content de vous avoir eu au téléphone. Ma fille, elle saute. Là, je pense qu'elle est chanceuse. Et puis, depuis le début de Ramadan, l'année dernière, elle n'arrêtait pas de vous appeler. Et cette année aussi, elle va juste vous dire Tahaftakum. Tahaftakum.
Ya tikassaha, Habiba. Mashallah alik.
Couscous Dari vous souhaite un bon Ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un Ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صيامنا وصلاتنا بمزيد من الأجر والثواب. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة. سكسو داري ما يختى داري. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كنت قنبرة فاميت من لكم شهية طيبة سحافتركم.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.